Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Philosophie au présent. Nathalie Perrin et Isabelle Raviolo. Aujourd'hui, Nathalie Perrin n'est pas présente, mais elle est en pensée avec nous pour une émission consacrée à Marc Rothko. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue. Et aujourd'hui, j'avais décidé avec Nathalie de travailler sur cette œuvre magnifique du peintre Marc Rothko, qui est né le 25 septembre 1903 à Tvinsk, en Russie, et qui s'est suicidé le 25 février 1970 à New York. Alors c'est vrai que dans les tableaux de Marc Rothko, et en particulier dans ceux de la dernière période, le peintre invite notre regard à extraire de lui-même ce qu'il appelle la part infinie d'humanité qu'il porte en lui. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire par cette phrase? Comment entendre cette part infinie d'humanité et qu'est-ce qu'elle représente? Alors c'est vrai que quand Rothko parle de sa peinture, il la relie souvent à une expérience religieuse. Les personnes qui pleurent, dit-il, qui pleurent devant mes tableaux, font la même expérience religieuse que celle que j'ai eue lorsque je les ai peints. La profondeur spatiale, la puissance méditative de ces Untitled, traduit sans titre en français, en particulier ceux des années 50, sont totalement uniques. Elles nous plongent, ces peintures, dans finalement ce qu'on pourrait appeler un dialogue intérieur où nous retrouvons cette part infinie d'humanité qui pourrait alors s'entendre comme un immémorial en nous, un quelque chose dans l'âme qui nous relie à une origine, à une expérience qu'on pourrait qualifier de métaphysique, une expérience de l'être profond, une expérience qui ne touche pas seulement les sens, la perception sensible, mais aussi les sens en tant qu'ils vont être transfigurés, ou au contraire, on pourrait même dire des sens spiritualisés. Alors jusqu'où ce dialogue nous conduit-il? Eh bien peut-être à une aporie. Il nous conduit à une aporie en nous heurtant à l'image qui déborde nos représentations et nous déporte vers ce qu'on pourrait appeler les confins d'une réalité que nous ignorons. Cette image, qu'on pourrait qualifier d'image zéro et infinie, est tout à fait déroutante quand on regarde les tableaux de Marc Rothko. Et pour cela, j'indique à nos auditeurs la très belle exposition à Giverny autour de l'œuvre de Rothko et de Monet. Alors pourquoi image zéro? Pourquoi image infinie? Précisément parce que c'est une image qui nous relie à cette part intime de nous que Rothko qualifie d'infinie, au sens où elle est infinie d'humanité. C'est-à-dire où là, dans ce fond, une réalité nous rejoint tous. On pourrait à ce moment-là se dire que la beauté est bien ce qui plaît universellement, pour reprendre le terme de Kant, et sans concept. Dans la mesure où cette image zéro et infinie nous fait perdre les repères connus ou les certitudes ou les codes ou les normes esthétiques qu'on pourrait avoir d'un point de vue historique ou culturel, elle nous déloge de nos quant à soi de pensée et de vision ou de perception, pour nous faire entrer dans le mystère dont elle naît. Et ce mystère, j'ai envie de l'appeler l'abîme. Si Marc Rothko fait une expérience religieuse quand il peint, et s'il nous invite à en faire une quand on regarde ses tableaux, c'est peut-être que ces tableaux nous font rejoindre, en cette part immémoriale au plus intime de nous, un quelque chose dans l'âme qui est une étincelle incréée, que finalement on pourrait nommer l'Abgrund à la manière des mystiques rhénans. Et c'est là que je veux en venir à cette émission, c'est-à-dire me dire que l'être et la vibration spirituelle de l'œuvre de Marc Rothko rejoint la mystique rhénane et les écrits de Maître Eckhart. Dans ce lien à l'abîme, on est relié au hors-phénomène, et Marc Rothko nous semble ainsi rejoindre le maître rhénan du XIVe siècle. Pourquoi ? Parce que cette réalité de l'abîme où nous sommes plongés, qui nous fait faire une expérience religieuse, c'est une réalité qui n'est pas circonscrite par la raison et qui demande à l'homme une immersion, une plongée. Plonger dans l'abîme, n'est-ce pas alors ces tableaux qui nous y invitent dans la mesure où ils nous font faire l'expérience d'un manque, d'un creux, autrement dit d'un désir. L'épreuve de l'irreprésentable chez Marc Rothko rejoint l'abîme ou le fond sans fond chez Maître Eckhart. Il est donc question aujourd'hui de penser le regard à travers la percée d'une perception sensible. Percée, c'est un mot que je reprends à Maître Eckhart, hein, Durchbruch chez Maître Eckhart dans la langue allemande, où finalement cette percée invite à dépasser les images pour aller à l'image et de l'image au-delà de l'image. Alors, quelle est cette dialectique de l'image qu'on retrouve dans les sermons latins, notamment le 49e, dans les sermons allemands de Maître Eckhart, le 40e? Eh bien, c'est peut-être ce que le regard dans sa dynamique nous invite à traverser quand on est devant les tableaux de Marc Rothko. Quand il réalise Orange, Red and Yellow en 1961, Marc Rothko a cette phrase: comme mes tableaux sont grands, colorés et sans cadre, et comme les murs des musées sont habituellement immenses, le danger existe que les tableaux se relient aux murs à la manière de zones décoratives. Ce serait une déformation de leur signification, puisque les tableaux sont intimes et intenses et sont à l'opposé de ce qui est décoratif, et qu'ils ont été peints à l'échelle de la vie normale plutôt qu'à une échelle institutionnelle. J'ai pu, à l'occasion, ajoute Marc Rothko, surmonter ce problème en prenant le parti de rendre l'exposition dense plutôt qu'austère, en saturant la pièce par cette sensation de travail. Les murs sont vaincus et le caractère poignant de chaque œuvre singulière devient plus visible pour moi. Ce très beau texte de Marc Rothko interroge la condition de l'image et donc sa finalité également. D'où vient l'image ? Qu'est-ce qu'elle nous dit? En quoi finalement cette image qu'est le tableau de Marc Rothko va nous permettre de relier la peinture de cet artiste du XXe siècle à la mystique de Maître Eckhart au XIVe siècle? Eh bien, le point de convergence qui relie ces deux penseurs, ces deux artistes même, ces deux poètes, osons le mot, c'est-à-dire des créateurs, ceux qui ont réussi à dépasser les codes et les normes du langage, eh bien ce point de convergence apparaît dans cette métaphore qui est récurrente dans la pensée de Maître Eckhart, la métaphore de l'abîme. Alors l'abîme, précisément cette cime et ce fond, c'est-à-dire ce point oxymorique chez Maître Eckhart, où il y va finalement d'une descente pour une remontée. Et cette descente est précisément cette épreuve même du regard devant la toile de Rothko. Cette toile Orange, Red and Yellow de 1961, c'est une toile qui n'a pas de contour. Et Rothko insiste beaucoup sur la volonté de ne pas y mettre de bord, de cadre ou de contour. Précisément parce que pour lui, ce qui pourrait enserrer le tableau, eh bien, cadrerait le regard et l'empêcherait d'être précisément ce regard attiré par un désir profond vers cet abîme qui n'est pas un gouffre où l'on se perd, mais au contraire peut-être cet irreprésentable qui nous conduit, en dépassant les images, à éprouver en nous, au fond, ce rapport à ce qu'on pourrait appeler l'expérience intime de l'être. À cela, on pourrait dire cet être qui, à la fois, est comme emporté, et donc qui laisse place à cette force qui l'emporte, et en même temps, cet être qui, en tant qu'il a osé ce geste de la perte, en quelque sorte, ou du manque, eh bien, est comme rendu à une vérité de lui-même, et cette vérité de lui-même, c'est une dimension de la conscience, pourrait-on dire, c'est-à-dire une réalité intime que l'homme découvre par expérience métaphysique. Une expérience qui transcende les sens, mais qui ne les efface pas, au contraire. Donc c'est pour ça que, finalement, figurer l'infigurable, c'est dépasser par-delà les sens, ce qui pourrait être finalement un arrêt sur image. Autrement dit, les images, dès lors qu'elles nous médusent, dès lors qu'elles nous fascinent, peuvent nous empêcher de méditer, c'est-à-dire peuvent nous empêcher de réaliser cette dynamique du regard, ce voyage intérieur. Alors, si Rothko nous conduit vers l'empreinte immaculée, c'est-à-dire vers cette image qui, au-delà de ce qu'elle peut donner à voir, conduit à faire une expérience intime, il faut commencer par interroger, chers auditeurs, ce que l'on pourrait dire du représentable et de la représentation. Si l'on définit le terme « représenter » par « rendre présent quelque chose d'absent » en l'évoquant, eh bien, on pourrait dire que c'est donner quelque chose à voir. Alors on sous-entend que tout peut être représentable, même ce qui est irréel peut être représenté grâce à la puissance de notre imagination. Cependant, jusqu'où peut-on représenter le réel ? Le réel n'échappe-t-il pas à nos représentations ? Donc quelle est la condition de nos représentations ? Voyez que ces questions vont nous mener à explorer ce concept qui revient souvent dans les propos de Marc Rothko sur l'art, et qu'il appelle une discontinuité. Discontinuité en art et en philosophie. En quoi alors le regard du peintre n'est plus un regard du dehors, où il irait d'une relation physico-optique avec le monde, mais où le regard est en quelque sorte intériorisé. Le monde n'est plus devant moi par représentation, si vous voulez, c'est plutôt le peintre qui naît dans les choses, comme par concentration est venu à soi du visible. Et le tableau n'est lui-même spectacle de quelque chose qu'en tant qu'il n'est spectacle de rien. Il est donc ce discontinu du réel, pour montrer comment les choses se font choses et le monde monde. Donc on voit que l'art n'est pas pour Rothko un artifice, une construction, une mimésis, un rapport industrieux à un espace et à un monde du dehors. Il est une non-coïncidence avec le langage connu. Une critique de l'équation ontologique, en quelque sorte, si vous voulez, c'est précisément ce à quoi Maître Eckhart, dans son expérience mystique, fait l'expérience. Et c'est ce qu'il rejoint quand il travaille sur la matière des mots. Quand il passe de ce latin d'époque, au XIVe siècle, à la langue vernaculaire, quand il déploie tout un langage oxymorique, un langage qui utilise des propositions excessives, quand il est poète, tout simplement, c'est-à-dire qu'il cisèle le matériau du langage jusqu'à l'épure. Et cette épure, Rothko la réalise sur sa palette. Il la réalise sur sa palette et dans l'espace, cet espace que Marc Rothko ne veut pas clos, mais infini. Nous passons donc de la totalité que donne un cadre à l'infini. Et là, on peut dire que Rothko, à l'instar Descartes, conduit à penser une autre logique, une logique de discontinuité, c'est-à-dire une logique de désadéquation. Et si l'on réfléchit bien, dans un regard qui adhère parce qu'il est fasciné, une idole naît. Dans un regard qui prend une distance, une critique, une interrogation, le regard, précisément, peut laisser place à quelque chose qui vient, quelque chose qui naît, qui émerge et qui laisse la possibilité de penser, de dialoguer avec l'image. Donc rompant avec le continu, l'adéquat, la coïncidence de la représentation, l'art va nous confronter à l'irreprésentable. Irreprésentable, c'est-à-dire ce qui déborde les contours, ébranlant le pouvoir souverain d'un sujet tout puissant. C'est alors que le sujet n'y voit plus rien. Alors on peut dire que l'être ne s'oppose plus à l'apparence ici, comme le voulait l'ontologie, mais c'est bien l'être qui se dissimule dans son apparition. Nous ne croyons donc plus que la vérité reste vérité sans ses voiles. Nous avons trop vécu pour cela, dit Nietzsche dans sa préface du Gai Savoir. Cette phrase est très intéressante parce qu'elle rejoint au fond la question qui nous anime ici, à savoir qu'en est-il de cette expérience religieuse à laquelle Rothko nous invite et en quoi est-elle semblable à une expérience mystique telle que Eckhart en parle dans ses écrits. Est-ce qu'il ne s'agit pas là, finalement, d'une réalité où le peintre brouille nos catégories traditionnelles en déployant un univers onirique d'essence? Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ces tableaux sans titre? Ces tableaux, on ne peut pas, finalement, comme on le voit dans les musées, à travers les foules innombrables qui photographient et qui, avant de regarder le tableau, vont regarder l'étiquette hein, ou le titre, bah, c'est précisément que Rothko nous invite à regarder le tableau et pas le titre du tableau. Donc c'est pas tant le motif ou le titre qui compte que l'expérience qu'on fait avec ce tableau. Et là, je vais le citer parce qu'il rejoint complètement ce que Nietzsche dit de l'art, et notamment cette phrase du Gai Savoir. « Nous ne croyons plus que la vérité reste vérité sans ses voiles. Nous avons trop vécu pour cela. » Donc cette apparence n'est plus ce que la philosophie a fait pendant plusieurs siècles de l'image, c'est-à-dire un simple reflet, ou un fantôme, si vous voulez, un fantôme d'être qui n'a pas de consistance. L'image, au contraire, ici, est appelée à être ce qui vient vers nous, un avenant qui déploie dans son mode d'apparaître une réalité, un phénomène qui interroge l'intime de soi jusqu'à l'engagement de la pensée, c'est-à-dire jusqu'à l'implication de tout notre être. Je cite Rothko, « Comme je suis engagé dans l'élément humain, je veux créer un état d'intimité. » C'est ce que nous disions tout à l'heure en parlant de la part infinie de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que cet état d'intimité? Il s'explique en disant que c'est une transaction immédiate. Les grands formats vous prennent en eux. Vous voyez comme il y a un état de pâtir la peinture chez Rothko, comme si le regard se laissait lui-même porter par ce qui émane de l'image, son apparaître même. Et cet apparaître rejoint davantage l'esthétique hégélienne, vous l'avez compris, que la manière dont Platon pense l'image dans la République. Donc vous voyez que l'échelle est d'une extrême importance pour Rothko. C'est l'échelle humaine. On est devant les tableaux, comme finalement devant un océan, un infini. Je le cite. « Je crois que les tableaux de petit format, depuis la Renaissance, sont comme des récits, que les grands sont comme des drames auxquels on participe d'une manière directe. Chaque sujet nécessite des moyens différents. » Et alors, dans cette immensité d'étoiles de Rothko, dans cette grandeur à taille humaine, où l'on voit que la dimension est pensée, puisqu'elle est à l'échelle humaine, Rothko signifie l'importance de l'immersion, l'importance de la plongée dans le tableau, c'est-à-dire, au fond, ce qu'on pourrait appeler l'expérience de l'abîme. Il rompt alors avec le continu et l'adéquat, la coïncidence de la représentation, et il nous confronte directement à l'irreprésentable, à ce qui va déborder les contours en ébranlant le pouvoir du sujet. Et là, le philosophe, eh bien, celui dont Nietzsche parle, c'est-à-dire un artiste, qui invente depuis la crête discontinue du réel. Leur trajectoire au philosophe et à l'artiste va donc être une trajectoire d'ouverture. C'est pour ça que la fermeture du cadre est impensable pour Marc Rothko, parce que cette ouverture rythme une présence, dynamise au fond ce désir qui est celui d'un objet invisible, c'est-à-dire d'un objet manquant ou d'un obscur objet du désir, pour reprendre le titre du film de Buñuel. C'est-à-dire au fond une vibration de l'être, c'est le titre de l'émission, ou un rayonnement. Œuvre noire où l'on assiste du dedans à la fission de l'être, et donc à la rencontre d'un vide qui n'est plus le vide de Démocrite ou le vide qui serait une pure nihilité, mais au contraire, l'abîme qui appelle l'abîme, l'abîme de Dieu, l'expérience religieuse de Rothko, celle de la mystique rhénane, qui appelle l'abîme de l'âme, c'est-à-dire finalement un gouffre intérieur en cela que nous ne pouvons décrire tous les contours de qui l'on est et de ce que l'on est. Donc si ce vide n'est pas un néant sidérant, il est ce que l'on pourrait appeler l'irreprésentable ou l'abîme. Il semble ici se donner à nous comme une énigme, un mystère, mystère de l'être même, de ce qui apparaît à nous dans la visibilité, mystère aussi de la matière. Et on va voir que si la peinture de Rothko nous confronte à l'oxymore, elle est le point d'impact de ce que l'on pourrait appeler une entaille dans l'espace-temps. Et alors c'est intéressant de penser l'oxymore de la cime abîme chez Rothko, parce que on y retrouve la condition de l'image et du tableau de Rothko, c'est-à-dire une condition sans condition, une condition qui ne met pas de code ou de cadre qui pourrait nous empêcher de faire cette expérience, justement. Donc finalement, l'entaille dans l'espace-temps, c'est ce qu'on pourrait appeler l'expérience d'une rencontre avec la toile, une expérience qui va, dans le sens de Rothko, rejoindre la spéculation excessive de Maître Eckhart. Une spéculation excessive en cela qu'elle est elle-même, dans son écriture, ce qui caractérise le rapport à Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas un rapport qui serait encodé, hein, mais au contraire un rapport de créativité mutuelle. Autant dire que si Dieu nous confronte à l'irreprésentable qu'il est, l'homme est par rapport à lui un chercheur infini de l'infini divin. Et là, c'est exactement ce qui se passe quand Rothko peint ses grands formats. L'apparition de l'image en sa force est ici tout à fait étonnante, puisque elle est puissance d'être, cette image. Elle n'est pas un quelque chose qui se donnerait à voir, mais au contraire, une réalité à expérimenter, à éprouver dans un pâtir de l'image, en quelque sorte. C'est-à-dire une image qui nous appelle et qui, en nous appelant, nous fait rejoindre en nous-mêmes une réponse à qui nous sommes, à cette part infinie d'humanité en nous, où nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels, où nous sentons et nous expérimentons cette mémoire d'un immémorial en nous. Quelque chose dans l'âme, dit Maître Eckhart, une étincelle incréée, un fond sans fond, qui nous relie à l'abîme trinitaire. Et c'est là, précisément, que la dialectique de l'image trouve toute sa dynamique, chers auditeurs. parce que en cette attitude du peintre comme du mystique se dessine l'exigence d'une tenue à distance ou d'un écart, ou dans la décoïncidence de l'œil d'avec ses objets de représentation, s'ouvre ainsi l'espace d'une libération du regard qui ne prend plus, mais reçoit, patiente, se laisse nourrir du silence de l'œuvre, sans chercher à l'enserrer dans des cadres rationnels. Vous voyez que cette attitude soulève tout l'enjeu éthique d'une attention où rien n'est attendu, justement, mais où corps et âme se font les vigiles de ce qui les appelle et les devance, finalement de cette voix qu'on pourrait qualifier d'inouïe et qui émerge des profondeurs de la toile, de sa composition, de son rythme. Une tenue, donc, sur le seuil, qui est une tenue, obéissant à la voix qui appelle et ne nous dit pas de rester justement là où l'on est, mais d'entrer en échange, c'est-à-dire de nous laisser appeler et donc de répondre par l'expérience d'une immersion. Finalement, cette expérience-là est celle qui demande à l'homme d'en être et d'y être tout entier, et en même temps de tenir cet écart qui est l'enjeu éthique de l'incarnation, de la chair du tableau, de la chair du texte, comme de la chair de l'homme. Donc le dépassement des images, finalement, apparaîtrait ici comme une mort à l'image elle-même, une mort qui est une manière de se détacher de ce qui apparaît tel qu'il apparaît, pour, par cet apparaître, découvrir une réalité intime, voire infime, c'est-à-dire discrète, au sens où elle entre en résonance avec ce point de convergence dont nous parlions, c'est-à-dire ce rapport entre l'art et la philosophie, entre la poésie et le logos, au sens où l'un et l'autre, tout en gardant cette différence radicale qui les caractérise dans leur nature ou dans leur être, dialoguent entre elles et pose ainsi en l'homme, en quelque sorte, une réalité oxymorique d'un langage qui n'est langage lui-même que pour autant qu'il ne s'enferme pas dans des codes langagiers et qu'il ose, à l'intérieur de ce qu'il est, dépasser et se laisser inspirer. Là, c'est très intéressant parce que l'oxymore de la cime et de l'abîme dont on a parlé, ou ce point de convergence entre poète et philosophe, on la retrouve chez Rothko à travers précisément une peinture qui est en quelque sorte l'expression de ce que Eckhart appelle un abgrund, ou ce qu'il appelle également une lumière infigurable, un intervalle asymétrique où, finalement, la question de l'être intervient dans toutes ses dimensions éthiques, en cela que l'homme a cette attitude à mener devant le logos, le verbe, qui est une attitude à la fois d'attirance, d'excès, au sens d'un amour excessif presque, hein, et en même temps de retrait, de distance, puisque cet infigurable est décidément inappropriable. Donc, figurer l'infigurable, c'est faire l'expérience de l'abîme, autrement dit de l'inappropriable. Regarder un tableau de Rothko, c'est se laisser immerger dans le bleu, dans le rouge, dans l'orange, dans cette vibration générative où le foyer de toute fécondité spirituelle devient possible. C'est pourquoi, chers auditeurs, j'ai choisi cette musique de Zbigniew Preisner, qui est la musique du film de Kieslowski, Bleu. Et ce bleu, c'est la couleur qui rappelle les personnes disparues, c'est la couleur qui nous relie à nos morts dans le film, mais c'est aussi la couleur qui porte la promesse d'une vie nouvelle. Et dans cette couleur, il y a bien sûr le bleu de la création, le bleu de la terre et le bleu des océans. Bleu, musique du film de Kieslowski. Voilà, c'était Bleu de Krzysztof Kieslowski sur la musique de Prejsner. Et ce bleu de la musique, c'est toute la force qui ramène à la vie le personnage principal joué par Juliette Binoche. Et c'est vrai que c'est intéressant cette musique parce que c'est vraiment une musique pascale dans le film. C'est une musique de traversée où cette femme traverse ce deuil et naît à une vie nouvelle sans pour autant oublier. Mais elle va découvrir dans cette plongée une identité nouvelle. Et c'est bien à cette expérience que nous appelle Marc Rothko, une expérience de vie, aussi bien qu'une expérience de mort, car la vie et la mort sont chez lui accolées. Une mort pour une naissance, pour une mise au monde, sans appartenance, sans attachement charnel. Mais alors comment faut-il entendre cette réalité pour l'œuvre peinte ? C'est Catherine Chalier, la philosophe, qui affirme qu'il s'agit bien de mettre au monde une œuvre. Et pour elle, cette œuvre porte la trace d'un combat de Jacob avec l'ange, incitant alors chacun à gagner le sien. Je cite Catherine Chalier de son très beau texte « L'appel des images » paru chez Actes Sud en 2017. Je cite la page 86. Donc quel est ce combat de haute lutte et pourquoi le mener ? Ben, là, on va comprendre qu'il est au cœur de notre réflexion aujourd'hui, chers auditeurs, parce que c'est en lui que se joue la promesse non d'un ailleurs nihiliste, mais d'une lumière infigurable, d'un intervalle asymétrique, ce que nous voulons nommer comme l'équivalent de l'abîme ou de fond sans fond chez Eckhart. Alors cette équivalence en peinture va à rebours des dérives et des tentations idolâtriques. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de revenir aux écrits de Marc Rothko, à ce qu'il dit de sa peinture, et notamment de cette très belle toile, numéro 22, qui date des années 49-50, où Marc Rothko affirme « Je pense à mes tableaux comme à des drames. Les formes dans les tableaux sont les interprètes. Ni l'action, ni les acteurs ne peuvent être anticipés ou décrits d'avance. Ils commencent comme une aventure inconnue, dans un espace inconnu. C'est au moment de l'achèvement que, dans un éclair de reconnaissance, on les voit posséder la quantité et la fonction que l'on visait. Les idées, les plans que l'on avait à l'esprit au commencement n'étaient que l'embrasure de la porte par laquelle on a quitté le monde dans lequel ils adviennent. » Alors là, dans ce très beau texte de Rothko, on voit combien cet appel à découvrir et à comprendre intimement l'unité de l'œuvre peinte est à penser comme, finalement, ce que l'on pourrait appeler une habitation. Une habitation ou une aventure. Et cette aventure relie la musique de Prajzner à toute une dynamique pascale. Tout à l'heure, avant l'extrait musical, on parlait de dialectique de l'image. C'est-à-dire de tout un mouvement pascal où, finalement, l'image est à dépasser. Et si elle est à dépasser, c'est précisément qu'elle-même appelle à son propre dépassement. Parce que, en tant qu'être, l'image est précisément cet inappropriable. C'est pourquoi il est intéressant de comprendre que l'épreuve de l'irreprésentable chez Rothko est la dimension de l'expérience de tout l'être qui regarde le tableau. Regarder un tableau, ce n'est pas voir quelque chose comme on verrait un objet pouvant en décrire et que l'on pourrait en décrire des motifs ou des contours. Mais c'est passer de cette totalité objectale et objective à un infini qui n'a pas de contour, un infini qui est sans contour et qui nous appelle à cette aventure, à l'audace de l'incessant déplacement. Un déplacement ou une désinstallation où il s'agit toujours de passer. Donc au fond, ce rapport de la mort à la vie dans les tableaux de Rothko, comme dans l'écriture des cartes, c'est un rapport de mort à résurrection, comme on pourrait l'entendre au sein d'une dynamique pascale. On est donc toujours dans l'expérience religieuse par la rencontre d'un tableau de Marc Rothko, une expérience religieuse avec l'œuvre d'art comme avec un intervalle asymétrique. Dans la toile de ce peintre, qui est intitulée « Dark Greens on Blue with Green Band », donc des verts sombres sur du bleu avec une bande verte, eh bien, on remarque que le regard est aussitôt attiré par une force plastique de l'image vers un ailleurs lumineux qu'il ne peut pas figurer et qui semble le regarder. Donc finalement, regarder une image, c'est se laisser aussi regarder par elle. Mais cette possibilité du rapport entre les regards, regard de l'image et regard du spectateur, n'est possible que si l'on laisse place à cette image pour venir jusqu'à nous. Et si on n'arrive pas à elle avec des présupposés ou des normes ou des codes. Autrement dit, ça suppose une disposition intérieure. C'est pour ça que l'éthique rejoint la philosophie ici et là, dans la mesure où c'est une attitude de tout l'être qui regarde qui est ici nécessaire, c'est-à-dire une attitude de mise en disponibilité de tout son être, c'est-à-dire de ne plus, finalement, en quelque sorte, operculer l'horizon et empêcher cette rencontre avec l'image par une multitude de certitudes ou de schémas, mais laisser à l'image la possibilité d'advenir jusqu'à nous, c'est laisser la possibilité d'une rencontre et donc la possibilité d'une transformation. Vous voyez, c'est intéressant, parce que tout à l'heure on disait que la position du spectateur, c'est une position sur le seuil, une position qui ne peut pas franchir un espace. Et en même temps, cette position sur le seuil n'est elle-même que dans la conscience que l'image va appeler en nous une présence, une part infinie d'humanité, pour reprendre l'expression de Rothko, qui est appelée à aller plus loin et qui donc, dans cet appel, rejoint au fond ce que nous pourrions appeler à la fois un agir et une passivité. Et c'est ce que Maître Eckhart appelle la Gelassenheit, c'est-à-dire le laisser être, le faire place, autrement dit le pâtir. Pâtir Dieu, pâtir l'image, c'est aller par elle au-delà d'elle-même, c'est-à-dire se laisser désinstaller de nos représentations pour être devant ce qui se présente à nous et nous appelle à aller vers l'autre rive. Aller vers l'autre rive, c'est finalement ne jamais s'installer, ne jamais avoir un endroit où reposer son œil. Et cet endroit où reposer son œil serait une forme de langage, de certitude, de grammaire, des mots ou des images. La voix, là, ici, de Rothko, nous intéresse à double titre, puisque dans ses tableaux, et en particulier ceux qu'il peint à la fin de sa vie, Rothko invite le spectateur à découvrir ce monde intérieur par la profondeur spatiale et la puissance méditative de ses œuvres. Et c'est là que l'on peut appeler la correspondance entre l'exigence de la profondeur, qui implique l'attitude ou la qualité d'écoute du regard, qui nécessite ainsi un véritable détachement ou désencombrement des représentations, à ce que Maître Eckhart appelait lui-même le détachement, l'abgeschiedenheit, et dont il faisait le premier point de son programme de prédication. Donc se détacher, c'est bien la condition pour revenir à l'expression, pour aller à la rencontre de l'image, autrement dit, pour répondre à son appel en l'incarnant dans le tableau. Alors comment cette rencontre peut-elle au fond avoir lieu? Quelles sont ses conséquences? Il ne s'agit plus effectivement de nous représenter le tableau comme l'objet à voir ou à comprendre ou à nommer, mais d'entrer en dialogue avec lui. Et dans ce dialogue, il y a comme un appel à faire silence, un appel au silence de l'âme. Donc finalement, ce silence qui est ici celui finalement du tableau et de cette peinture de Rothko, c'est celui que l'on peut appeler le silence tout bruissant d'images, un silence qui est finalement un silence appelant l'homme à faire l'expérience religieuse dont Rothko parle, c'est-à-dire à se laisser porter par la force énergétique du tableau, qui conduit l'historienne de l'art Barbara Rose à comparer la chapelle de Rothko à la chapelle Sixtine à Rome et à la chapelle de Matisse à Vence. Les peintures semblent ainsi rayonner mystérieusement de l'intérieur. Dans la perspective de la dynamique de percée dont nous parlions, ne devrait-on pas alors dire que l'œuvre demeure toujours inachevée? Inachevée parce qu'irreprésentable, débordant les contours, excédant les cadres, inachevée aussi parce qu'habitant l'intervalle asymétrique que notre humaine condition ne saurait rejoindre complètement. Mais quelle recherche, quel désir, comme on désire la vérité, dans un mouvement quasi asymptotique qui nous confronte à l'oxymore. Alors vous voyez que on rejoint ici beaucoup les réflexions d'Henri Maldinet. Henri Maldinet montrait de manière magistrale dans « Regard, parole, espace » publié à Lausanne dans les années 70 que c'est un abus de dire que l'art est un langage, car pour ce philosophe, la signification et la manifestation y sont une. Dans l'art, dit-il, parle des formes, non des signes. La forme se signifie et signifie en apparaissant. Alors c'est ça que l'on pourrait appeler l'audace de la peinture, comme celle d'ailleurs de l'écriture. C'est celle d'une percée qui n'a rien d'un franchir, comme on franchirait un seuil, mais qui se dessine précisément comme une courbe asymptotique qui danse, qui, sans nous faire quitter l'axe, si vous voulez, nous déporte vers l'intériorité depuis laquelle nous ne voyons plus la même chose, mais depuis laquelle nous rencontrons l'autre qui n'est plus le même et nous fait alors décoïncider de notre subjectivité, du sujet tout-puissant qui a ses assises et ses certitudes, qui ouvre ainsi l'espace d'une déhiscence, éveillant une latence, la latence du vide fécond ou du désert fertile, de ce que Maître Eckhart appelait l'étincelle incréée de l'âme, c'est-à-dire au fond la fine pointe de notre être, où vibre un dialogue intime avec l'origine et où nous portons le Verbe et l'enfantons. Donc voyez que cette autre lumière, c'est la lumière de l'intervalle asymétrique dont nous parlions. Donc les peintures de Rothko ne cherchent pas à représenter une réalité extérieure à elles, puisqu'elles ont leur propre poids de réalité en elles-mêmes. Elles sont aussi portées par cette quête, ou plus exactement, par une forme de désir ou de nostalgie même de l'unité. Et cette nostalgie est au cœur du mouvement de la percée, justement. Un ressouvenir, une réminiscence, la réminiscence d'un immémorial qui nous appelle à toujours être plus attentifs à ce quelque chose dans l'âme, à cet abîme fécond de notre profondeur où le Verbe naît éternellement et nous transforme. Donc vous voyez, en quelque sorte, dans l'expérience traduite par Rothko, il s'agit de passer de l'autre côté du miroir, pour reprendre l'expression de Lévis-Carroll. Si l'homme ne peut ni être hors de son corps, ni hors du monde, il doit toutefois, comme corps et monde, comme chair, se libérer de la représentation. Ainsi, Rothko nous appelle à regarder son tableau en nous déprenant de tout ce que nous voyons en lui, en perdant l'armature de nos représentations, pour oser l'aventure de la lumière, pour voyager en cette lumière, comme ces murs de lumière qu'il peint à Houston, au Texas. Les images fraient la voie vers cette unité ultime quand elles concilient la perte, celle des formes, des individualités, de tout ce que l'on croit reconnaître au fond, et la plénitude. Rothko cherche donc à atteindre une forme par laquelle la dimension mystique de l'art éclate. Mais alors comment comprendre cet éclatement comme une fragmentation, que l'on pourrait même dire une déflagration de la forme ? La condition de l'image n'est-elle pas alors d'être sans image ? Cette perte conduit-elle à la fusion dans l'informe, comme avait pu le laisser entendre l'expression d'immersion, le mot immersion dont nous parlions, une jetée dans le néant, ou bien à l'au-delà de la forme, à ce que Maître Eckhart entendait comme l'Überbildung, une image au-dessus de l'image, une image de la divinité cachée. Il y aurait donc en peinture, comme en philosophie et en poésie mystique, une épreuve qui nous conduirait à dépasser les rapports spatio-temporels et les codes langagiers. La peinture tente alors de l'approcher, et son apparition est une approche, et en cela, elle implique l'écart. Car il s'agit bien de penser l'unité dans la distinction et la distinction dans l'unité. C'est pourquoi elle n'est rien de ce que l'on peut se figurer à partir des catégories de l'être. Libérée de la représentation, la peinture n'est alors plus que couleur, lumière, désensevelissant le phénomène de ce que l'on pourrait appeler son opacité, le rendant visible depuis sa propre visibilité. Donc le négatif de l'image semble bien porter le possible de sa révélation. Et le médium, de cet advenu au jour, de cette mise à la lumière, de ce fanestai, n'est-il pas le peintre, le mystique, celui qui se tient sur le seuil en bordure du noir, comme en un milieu entre le temps et l'éternité? Là, vous comprenez, chers auditeurs, que l'on peut dire en quoi l'abstraction qui prend le risque de la nuit de l'image pour retrouver l'image nue, l'empreinte immaculée, rejoint toute la réflexion d'un maître Eckhart, toute la peinture d'un Rothko, sur le sens même de ce que l'on peut appeler l'incarnation. Ce qui prend chair, apparaît, et n'est pas ce qui se donne immédiatement à la vue, à la surface de ma rétine, comme un objet fixe, si vous voulez. Mais c'est bien une présence dense, une présence profonde, où matière et esprit deviennent une unité. Peindre une image, dédevenue des images, hein, c'est donc tenter d'approcher ce rien, tenter de transfigurer la figure en perçant sans cesse dans le figuratif. Finalement, c'est cette percée dans le figuratif que Rothko nous invite à expérimenter et par laquelle il cherche l'incarnation nue de l'image en art, comme Eckhart avait recherché la réalité de l'incarnation dans le mouvement de la percée. C'est-à-dire en fait dans l'exigence d'une aventure, d'une traversée, où il n'était plus question d'être ceci ou cela, décrit comme ceci ou comme cela, de se représenter le réel comme quelque chose, mais de se confronter au vide, au rien, à ce dont le sens ne pouvait être saisi par la seule raison, mais qui requérait en lui-même l'exigence d'une expérience la plus radicale, au fond. Et c'est pour ça que Marc Rothko affirme, début des années 40, dans « La réalité de l'artiste », un très beau livre qui recueille ses pensées, je cite Rothko, « L'artiste invite le spectateur à entreprendre un voyage dans le champ de la toile. Le spectateur doit se déplacer avec les formes de l'artiste, au-dedans et au-dehors, au-dessous et au-dessus. » En diagonale et à l'horizontale, il doit dessiner une courbe autour de sphères, traverser des tunnels, descendre des plans inclinés, parfois accomplir des prouesses aériennes pour voler de point en point, attiré à travers l'espace par quelque aimant. À moins d'entreprendre le voyage, le spectateur passe réellement à côté de l'expérience essentielle du tableau. Donc on ne voit pas un tableau de Rothko, comme on voit une simple image qui ne renverrait rien qu'une apparence, mais on regarde un tableau de Rothko, c'est-à-dire qu'on prend le temps, dans l'attention d'une patience, à laisser place à cette image qui vient vers nous. Et on risque ainsi un voyage. On risque un voyage dans le tempo lent d'une patiente attention qui donne au spectateur finalement un rôle aussi bien actif que un rôle de répondant. Si le spectateur est appelé, il répond, et dans cette réponse il participe à une activité sans pour autant, si vous voulez, que ce soit une activité où ils prennent possession ou où ils décrivent quelque chose. Donc finalement, il y a ici comme un lien que Marc Rothko fait avec ce que l'on pourrait entendre comme l'art archaïque. Finalement, avec ce peintre, il s'agirait de revenir au questionnement de l'image qui ne présuppose pas encore la figure figurée, la figure fixée en objet de représentation, c'est-à-dire de faire retour à la figure figurante ou au processus, au chemin, à la question en acte, faite couleur ou volume. Tableaux rouges, noirs et bruns qui hantent l'être de l'espace, celui de la chapelle à Houston, un espace impossible à fixer qui résulte de ce qu'on pourrait appeler un fredonnement visible ou un être bruissant de lumière, c'est bien la modalité du visible lorsque l'instance s'en fait inéluctable, qui est alors un travail du symptôme où ce que nous voyons est supporté par une œuvre de perte. Au fond, un travail du symptôme qui atteint le visible en général et notre propre corps voyant en particulier. Inéluctable donc comme une maladie, inéluctable comme une clôture définitive de nos paupières. Mais la conclusion du passage, c'est bien une conclusion qui parvient à dire que, en ouvrant les yeux pour éprouver ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne verrons plus, ou plutôt pour éprouver que ce que nous ne voyons pas de toute évidence, nous regarde comme une œuvre de perte, eh bien c'est bien ça l'expérience à laquelle Rothko nous invite ici. L'expérience d'une perte pour une rencontre, l'image donc qui semble s'être retirée, l'image qui semble s'être absentée, qui ne donne plus rien à voir que sa nudité, cette empreinte immaculée de l'image, c'est bien sa présence d'absence qui évite notre vision frontale et nous appelle au regard dépris de l'expérience esthétique qui se tient sur le seuil, au bord de la peinture, comme au bord du monde. Et à cette condition, l'expérience immersive est possible, paradoxalement. Donc vous voyez bien que c'est très intéressant parce que dans cette incarnation, dans ce tableau, Rothko rend le visible à sa retraite. Il le rend ainsi visible dans l'irreprésentable, donnant en quelque sorte à regarder, à se tenir au seuil de l'expérience constitutive du vide, de l'abîme en peinture. Dans cette peinture que Rothko, finalement, nous rappelle en sa profondeur incarnée et qui est une peinture où le regard humble et discret fait l'épreuve d'une figure infigurable où l'œil qui regarde écoute et où Rothko donne à cette affirmation une forme de réalité musicale. Merci beaucoup. À bientôt, chers auditeurs.